Alors, Pierre-Yves, si je te comprends bien, tu es un amateur de baseball, tu es
the
pour...
Spike Owen, Paul, de Spike Owen.
Je me rappelle de Spike Owen. Je ne sais pas s'il va être là pour le 50e, là, tu sais, la réunion. Spike Owen. Alors, tu es pour le retour du baseball professionnel à Montréal, le retour des expos, mais tu dis la logique prend le bord.
Oui, il faut que ce soit privé, Paul. Bien, vraiment privé. Pas de genre, on va construire le stade, mais on va le donner aux autorités, puis vous allez prendre le risque. Pas, on va demander un congé de taxes foncières. Mais le problème aussi, c'est tout ce que ça va apporter alentour. C'est-à-dire, imagines-tu l'impact puis les alouettes? Tu sais, tu viens donner une opportunité à des gens, mais tu viens vider deux autres stades, parce que les entreprises qui achètent des billets de saison, ce sont les mêmes. Et c'est financé par l'impôt, dans le fond, hein, les frais de représentation. Tu sais, les restaurants, oui, il y a des frais de représentation qui servent là-dedans, mais il y a des particuliers qui dépensent leur argent après impôt. Mais les stades de baseball puis les places de hockey, ça concentre des dépenses. On prend des dépenses d'ailleurs des gens, on les ramène là. Donc, est-ce qu'on crée de la nouvelle argent? Oui, s'il y a des touristes qui viennent que pour ça, qui seraient pas venus autrement. Oui, si les joueurs de baseball paient de l'impôt ici, s'ils sont pas non-résidents dans tous les matchs, effectivement, ils paient une certaine faction d'impôt, une portion d'impôt, c'est vrai. Mais quand on arrive après ça à dire, voici des propositions comme enlever de la TPS TVQ possiblement et l'attribuer au remboursement de l'État, avoir une portion de l'État qui finance le stade, donner un terrain, t'sais, toutes ces choses-là, on n'en veut pas. Et qui plus est, faut comprendre qu'on va nuire aux deux autres équipes. Et si jamais on donne un congé de taxes foncières au stade olympique ou une facture inférieure, bien évidemment, ça va être le Centre Bell qui va vouloir avoir le même traitement parce qu'on le demande.
Ah ben c'est sûr, ça fait des années qu'il le demande.
Et l'impact aussi. Donc là, tu te retrouves avec deux personnes, deux organisations qui vont vouloir payer moins et qui payent les taxes foncières à Montréal. Mais ce sont les particuliers. Tu sais, c'est un immeuble à 500 000 qui vaut 6-7 000 piastres de taxes au total. Tu te dis, à un il y a une limite à ce que le contribuable peut accepter de financer ça. C'est un trip. Et Paul, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la clientèle du baseball. Le baseball et le sport avec la clientèle la plus vieille. L'audience moyenne, OK, est plus élevée que tous les autres sports. Donc, on dit que l'audience moyenne d'un match de baseball, la Ligue majeure, c'est 53 ans. 47 ans pour la NFL et 37 ans pour la NBA. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a démontré qu'on a un problème au niveau du renouvellement de la clientèle. Donc, même si tu as des boomers qui sont propriétaires de PME, qui disent « je vais aller dépenser dans le stade », faut se demander est-ce que leurs enfants et leurs petits-enfants iront. Et l'autre question, c'est se demander, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir au sport professionnel une fraude fiscale éhontée, ouverte? Je te donne un exemple. Au Centre Bell, les gens prennent des billets de saison, déduisent ça des compagnies, ils vont à des fins personnelles et ils vont sur Internet à des fins personnelles et vendent les billets cash. Alors, on se retrouve à financer à même nos impôts le sport professionnel. Et ça, de façon directe ou indirecte, ça commence à être lourd pour tous les commerces qui en souffrent alentour. C'est-à-dire, oui, il y en a qui gagnent des revenus, mais il y en a qui en perdent parce que le dollar que tu dépenses au Centre Bell dans ta soirée à 200$, ben, tu ne le dépenses pas ailleurs. Ce sera la même chose pour le baseball.
Alors, inutile de dire que tu es partisan, oui, de la construction peut-être d'un stade, mais à 100% venu de fonds privés.
Oui, tu sais, on prend des fonds des paradis fiscaux puis on les ramène ici, là, hein, puis on investit là-dedans. J'ai nommé personne!
On pourrait appeler ça les internationaux de Montréal.
Ah, mais c'est
non,
bon,
mais non, mais je parle des fonds répartis.
Les Hidden Paradise de Montréal, ça pourrait être comique.
Exactement. Bon, parle-moi d'Universitas, tu nous en as souvent parlé, l'Universitas. Oui. Le vote est maintenu et les parents sont brimés dans leur contrat initial.
Une portion des parents, ceux que leurs enfants avaient performé. C'est-à-dire que quand tu signes le contrat initial avec Universitas, on te dit ceux qui iront à l'école longtemps bénéficieront du relâchement des autres, si tu veux. Et il y aura justement un paiement aux études plus élevé en moyenne grâce à des paiements garantis. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on dit « Non, non, on va assouplir les règles. Finalement, on fait un vote. Ça va être la même chose que pour un régime enregistré d'épargne études moyen. » Ben dans le fond, si c'est ça, Universitas vient de brimer des parents dont les enfants ont 15, 16, 17 ans et qui étaient bien alignés sur l'université et bien alignés sur faire de l'argent. Et là, on va les amputer de quelques dollars. Et on dit, c'est pas grave, on va avoir 1 million pour compenser les parents qui vont être perdants pour le vote. Je m'excuse. Mais 1 million, quand tu te vends d'avoir plus d'1 milliard d'actifs, 1 million, c'est des peanuts. C'est comme dire à mon gars, fais-toi-en pas, si tu perds 5$, je vais te donner 10 cents. Tu sais, donc, on sait pas comment ça va être distribué, mais il y aura des parents perdants. Et il y a une question à se poser pour les épargnants. Si Universitas devient un simple fonds commun de placement gigantesque, est-ce que c'est encore utile pour les parents?
Ça donne quoi?
Ben, ça donne la régime enregistré d'épargne études, la subvention.
Non, mais je veux dire,
mais t'as plus l'avantage, tu sais, t'as plus le gain qu'on avait avant.
Alors, qu'est-ce qui le distinguerait, tout simplement, d'un régime épargne études?
Ce serait qu'il y aurait la force du 1,4 milliard d'actifs. Ouais. Mais, Paul, Moi, j'ai les enfants dans les deux. Là. J'en ai un universitaire puis un non-universitaire. Et je ne dis pas que c'est un conseil financier. Mais moi, si c'était à refaire, mon plus vieux ne serait pas là avec les nouvelles conditions, surtout avec des frais d'adhésion non remboursables.
OK. Prenez note, 1er janvier.
Avec le rendement. On rembourse le capital, mais on ne rembourse pas le rendement aux parents.
OK. Alors, donc, prenez note, mesdames, messieurs, 1er janvier, on bonifie et on change le régime des rentes du Québec. Comment est-ce qu'on va être affecté?
Il y a un régime de base et il y a maintenant un régime supplémentaire. Le régime supplémentaire, Paul, ça veut dire qu'à même ta paye, il va se prendre à partir du 1er janvier une contribution supplémentaire pour donner une bonification à ton régime de retraite.
Bon, de, là, quel ordre?
De
quel
ordre? De l'ordre du nombre d'années que tu auras contribué. Hein? Donc, la contribution totale est à 10,8. Elle va passer à 11,1% employeur et employé. Donc, Paul, disons qu'il te reste 20 ans à travailler, toi, par exemple, à contribuer. Ben, tu vas avoir fait 20 ans de prorata de la nouvelle contribution additionnée.
Et alors?
Donc, on va bonifier ta retraite de quelques dollars, évidemment, en lien avec le nombre d'années où tu auras contribué. Les plus jeunes qui commencent à travailler, eux auront une retraite qui pourra atteindre un taux de remplacement de leurs revenus de 33% avec leur RQ. Ça veut dire que quand ils vont prendre leur retraite, ils vont avoir 33% du salaire qu'ils avaient qui est placé par le RRQ, donc on va cotiser plus, mais on va avoir une meilleure retraite. Et faites attention, d'ici quelques années, il va y avoir une augmentation de la contribution chaque année. Donc, notre RRQ va devenir de plus en plus pesant.
Comme là, à partir du 1er janvier, sur les payes, là, oui. ça va faire une grosse différence.
Ben, quelqu'un qui a 57 400 de revenus va payer 81 $ de plus par année. Mais quelqu'un qui gagne 65 000 en 2025 va payer 539 de plus,
oh,
plus
même.
Un autre 320, donc un 859 $. Mais Paul, il va avoir une plus belle retraite, là. Il
oui.
se paye lui-même. Ouais. C'est pas une taxe, c'est une contribution à son propre régime de retraite.
OK, je comprends. Merci.
Salut.
À demain.